Bonjour et bienvenue dans Histoire et gastronomie. On se retrouve deux fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie, influence, histoire vraie, mondialisation et date clé sont les quatre séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouech, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. La plupart des gourmets ont entendu parler du fameux boulanger ou encore de Mathurin Rose de Chantoiseau qui aurait ouvert le premier restaurant en 1765, un événement fondateur de la gastronomie française, événement illustré en 2021 dans le film d'Éric Bénard intitulé « Délicieux ». Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le restaurant a-t-il vu le jour en France et non ailleurs ? Qui a vraiment ouvert le premier restaurant entre boulanger et Mathurin Rose de Chantoiseau ? Quel rôle la Révolution a-t-elle joué sur le développement des restaurants ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans ce podcast dont l'objet est 1765, naissance du premier restaurant. Pour commencer, nous allons plonger dans le contexte de l'époque afin de découvrir quelles furent les conditions qui permirent l'émergence du premier restaurant, la succession d'événements qui stimulèrent l'avènement des restaurants et enfin, comment ces restaurants se multiplièrent à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Depuis le Moyen-Âge, il existait de nombreuses tavernes et auberges au bord des routes ou à l'entrée des villes où une clientèle populaire et de voyageurs pouvait boire et manger. Dans les auberges, on mangeait un plat unique, servi à heure fixe à une table d'hôte sans en connaître le prix à l'avance. Dans les tavernes, on servait du vin, mais l'on pouvait aussi faire griller sa viande achetée chez un boucher ou manger son plat acheté chez un traiteur. En ville, l'offre était bien supérieure et destinée à toutes les classes de la population, laborieuse ou non. Avant la naissance des restaurants, on comptait plusieurs autres corporations des métiers de bouche qui offraient la possibilité de se restaurer sur place ou qui vendaient des plats à emporter. Les maîtres-queues et cuisiniers, les traiteurs, les rôtisseurs et les cabaretiers. Les maîtres-queues, cuisiniers, porte-chapes de Paris dont les statuts remontent à 1663 avaient la prérogative d'organiser noces, festins et banquets et toutes sortes de repas, de travailler au service de grandes maisons ou de simples particuliers et de louer leurs services comme extra. Les traiteurs vendaient des ragoûts et des sauces, parmi lesquels figuraient viande rôtie, potage, tourte, vol au vent, langue fourrée, boudin blanc, qui faisaient parfois livrer en certaines maisons. Les rôtisseurs vendaient dans leur boutique viande rôtie ou prête à cuire et jusqu'à 3 plats de viande bouillie et 3 plats de fricassée. Il leur était formellement interdit de transporter ces plats pour l'organisation d'événements qui relevaient des prérogatives des maîtres-queues. Enfin, les cabaretiers étaient des marchands de vin à consommer sur place ou à emporter, qui pour certains servaient de la viande à leurs clients. Les tensions étaient fortes entre ces corporations, chacun tentant d'empiéter sur les prérogatives des autres pour augmenter son profit. Les traiteurs ne se privaient pas de livrer leurs plats pour des noces et banquets. Les cuisiniers traiteurs voulaient fournir le vin lors de leurs prestations, alors que les marchands de vin tentaient de loger leurs clients et de leur fournir des repas. En fait, plus le XVIIIe siècle avançait, plus les corporations dépassaient les limites fixées par leur statut. Cette situation généra de nombreux conflits entre corporations jugées devant les tribunaux et installa un certain libéralisme économique des services alimentaires. Ainsi, une offre variée, dispensée par une large gamme d'établissements, existait déjà avant la création des restaurants. Une offre qui permettait à chacun de se restaurer selon ses besoins, ses envies, ses moyens ou son statut social. Ces établissements allaient bientôt fournir la kyrielle de cuisiniers aux restaurants qui allaient émerger dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Par ailleurs, le principe du repas pris à la table d'eau d'une auberge avec des inconnus, écouter leurs conversations inintéressantes et subir leur manière de table rustre et bruyante dans un siècle où la vie privée prenait de plus en plus de place, devenait de moins en moins supportable aux voyageurs, aux étrangers et aux personnes d'un certain standing. Ce fut dans ce contexte fortement concurrentiel que le premier restaurant vit le jour en 1665 sous la houlette de Mathurin Rose de Chantoiseau, parfois aussi dénommé boulanger. Ce qui fit son succès fut de servir sur table individuelle à toute heure du jour et à prix fixe des bouillons restaurants qui restauraient les corps. 10 ans plus tard, Turgot, ministre des Finances de Louis XVI et partisan du libéralisme, mit en place des réformes audacieuses pour faire rentrer les impôts et libérer l'économie des entraves administratives. Il supprima les droits de douane intérieurs sur le commerce du blé et introduisit la libre circulation du grain. Mais la décision eut des conséquences considérables sur les anciens métiers de bouche fut la suppression, en 1776, des corporations et des privilèges qui leur étaient attachés, entravant la liberté d'entreprendre et l'initiative. C'en était fini des anciennes corporations et tout un chacun pouvait créer son propre établissement et servir ce que bon lui semblait à ses clients sans craindre d'éventuels procès. Il fallut attendre encore 5 ans pour connaître le restaurant que nous connaissons aujourd'hui avec l'ouverture par Antoine de Beauvilliers en 1782 du premier véritable restaurant sous son propre nom, le Beauvilliers. Dans son établissement au décor luxueux, il proposait une cuisine raffinée dont les plats étaient listés sur une carte à prix fixe, portés individuellement sur table et servis avec un service stylé dans une vaisselle d'apparat. On vit apparaître le terme de restaurateur dans un arrêt du 8 juin 1786 qui autorisait les traiteurs et restaurateurs à recevoir du monde dans leur établissement pour y servir à manger. Ainsi, le bouillon restaurant, qui était le plat servi par Mathurin Rose de Chantoiseau dans sa maison de santé, donna son nom aux établissements qui servaient à manger et devinrent des restaurants et leurs propriétaires des restaurateurs. À compter de cette décision, comme dans les auberges, les traiteurs pouvaient accueillir leurs clients à leur propre table au lieu de leur vendre des plats emportés. On pouvait raisonnablement imaginer qu'un nouveau conflit entre traiteurs et aubergistes allait survenir, un conflit qui n'eut jamais lieu, puisqu'après la Révolution, le Parlement de Paris confirma la suppression des corporations par la loi Le Chapelier de 1792. Aubergistes, traiteurs et restaurateurs pouvaient donc accueillir des clients à leur table et leur proposer ce que bon leur semblait. La vogue des restaurants était lancée dans la capitale. La révolution de 1789 et l'exil d'une partie de la noblesse eurent pour conséquence de libérer les cuisiniers travaillant à leur service, qui s'exilèrent, louèrent leurs services dans des maisons bourgeoises ou ouvrirent leurs propres restaurants, accélérant le mouvement amorcé 20 ans plus tôt. C'était une époque enthousiaste, parfois tragique, où se côtoyaient banquets et famines, car les dirigeants révolutionnaires étaient aussi de fameux gourmands. Lorsque s'éloigna les horreurs de la terreur, l'on assista à une frénésie de gourmandise et de plaisir. Paris se remettait à vivre. Les restaurants, fréquentés par les nouveaux riches issus de la Révolution, les banquiers, chefs d'entreprise, industriels ou députés, se multiplièrent dans la ville. La grande cuisine française était descendue dans la rue et n'importe quel citoyen fortuné pouvait manger comme le faisaient les grands aristocrates avant la Révolution. À l'origine du restaurant, établissement qui recevait des clients pour manger sur table individuelle à toute heure du jour et à prix fixe, des bouillons restaurants qui restauraient les corps. Il y eut bien ce restaurant ou bouillon restaurant, nom donné à un plat qui consistait en un bouillon de santé. Le restaurant apparut déjà dans le Trésor de santé en 1607, puis dans l'école des ragoûts en 1668. Il s'agissait d'un bouillon de viande distillé, destiné à restaurer le corps. Au siècle suivant, Vincent Lachapelle donnait dans Le Cuisinier moderne, publié en 1742, une quarantaine de recettes de bouillons médicinaux préparés par un cuisinier mais administrés par un médecin expérimenté dans la connaissance des maladies. Ce restaurant, bon pour des personnes âgées, faibles et épuisées, pour réchauffer le sang, était constitué de 200 moineaux, un gigot de mouton, un morceau de veau, une paire de riz, découpés finement, assaisonnés d'herbes et épices et enfermés hermétiquement dans un pot de terre. Le pot était immergé dans le fumier de cheval pendant 40 heures avant que les viandes ne soient pressées, passées à l'étamine et le bouillon récolté, conservé au frais pour servir quand cela était nécessaire. Tous les autres bouillons qu'il donnait, bouillon de poulet pectoral, bouillon de vipère pour purifier le sang, bouillon de poumon de veau pour les maux de poitrine, etc., panades, c'est-à-dire des bouillons avec de la mie de pain ou eaux diverses, de l'eau de cuisson de veau, de poulet ou de chapon, étaient destinés soit à soigner des maux bien identifiés, soit à réparer les forces des malades, des convalescents, des enfants, des vieillards et même des pauvres. Ainsi, jusque vers 1760, le restaurant était synonyme de fortifiant. Il ne pouvait être préparé et administré que dans de grandes maisons ou des établissements de soins qui avaient à disposition cuisiniers et médecins. Quelques années plus tard, naissaient les maisons de santé, une sorte de restaurant qui n'emportait pas le nom et qui servait des bouillons de santé. Ainsi, le contexte de la nouvelle cuisine du XVIIIe siècle et sa science des bouillons et quintessence contribua clairement à l'éclosion du restaurant qui allait rapidement s'imposer dans la capitale comme successeur de ces maisons de santé. En 1771, dans le dictionnaire de Trévoux, on pouvait lire « Il s'est établi à Paris de nouveaux traiteurs qui ne vendent que des restaurants et qui s'appellent restaurateurs ». Le premier qui eut l'idée nouvelle d'installer la première maison de santé à Paris fut l'entrepreneur Mathurin Rose de Chantoiseau, qui devint ainsi aussi le premier restaurateur de l'histoire. Dans l'histoire de la vie privée des Français, publiée en 1782 par Le Grand Dossi, l'auteur indiquait, en évoquant les restaurants et les restaurateurs, que c'était un dénommé boulanger qui avait ouvert le premier établissement de ce genre, rue des Poulies à Paris, vers 1765. Il avait affiché clairement la destinée de son restaurant en affichant sur sa devanture une parodie en latin d'un des versets de l'Évangile qui se traduisait par « Venez tous à moi, vous dont l'estomac crie misère, et je vous restaurerai ». Boulanger vendait des bouillons ou consommait et servait à toute heure des volailles au gros sel avec des œufs frais sur de petites tables en marbre. Diderot mentionna même dans ses lettres à Mademoiselle Volant être allé dîner chèrement chez ce restaurateur de la rue des Poulies en septembre 1767. Quelques années auparavant, l'Almanach Dauphin de 1777 évoquait non pas Boulanger comme l'inventeur du premier restaurant, mais messieurs Rose de Chantoiseau, probablement un entrepreneur, et Pontaillet, probablement un cuisinier, en 1766, locataire d'une partie de l'hôtel d'Aligre, rue Saint-Honoré. Il s'avéra que le premier établissement de la rue des Poulies, n'étant pas situé dans un emplacement avantageux, avait été transféré rue Saint-Honoré. Ce transfert fut confirmé en 1769 dans l'essai sur l'Almanach général d'indication d'adresse personnelle de Mathurin Rose de Chantoiseau en personne, dans lequel on pouvait lire. Le sieur Rose, premier restaurateur, ci-devant rue des Poulies, tient maintenant son établissement connu sous le titre de Maison de Santé, rue Saint-Honoré, à l'hôtel d'Aligre, où il continue, avec le même succès, de vendre chez lui et débiter en ville les véritables consommés, des restaurants au bouillon de prince, crème de riz ou de gruau de Bretagne, au gras et au maigre, macaroni, œufs frais, chapons gros sel, compote, vin de Bourgogne naturel et autres mets aussi salubres que délicats, de la meilleure qualité, et le tout à prix fixe et modique. La seule énigme qui subsiste est de définir le rapport entre Boulanger et Rose de Chantoiseau. Nous émettons une hypothèse, non confirmée à ce jour, que Boulanger pourrait être le surnom donné à Rose de Chantoiseau, car ce dernier aurait installé son premier établissement dans une ancienne boulangerie de la rue des Poulies, d'où la confusion des sources. À moins que Rose de Chantoiseau se soit installé rue des Poulies juste après l'installation de Boulanger et qu'il se soit attribué la création du premier restaurant, comme le suggère l'intermédiaire des chercheurs et curieux de l'année 1886. La vérité reste encore à démontrer. Quoi qu'il en soit, il fut imité par d'autres qui suivirent le mouvement, comme Minet ou Vacossin. Ils avaient tous en commun de servir à toute heure du jour, sur table individuelle, des plats à prix fixe, dont les fameux restaurants, ainsi que d'autres mets salubres et délicats, et de tout miser sur la propreté du lieu, la vaisselle et l'hygiène des serviteurs. Autre grande nouveauté, certains disposaient même de cabinets particuliers qui permettaient aux dames de venir se restaurer sans craindre la réprobation. Ce furent ces particularités qui les différenciaient clairement des cabarets, tavernes et auberges qui firent leur succès. Plusieurs auteurs relatèrent un conflit qui opposa restaurateurs et traiteurs au sujet de la sauce poulette, un conflit qui devint une véritable légende. Qu'en est-il vraiment ? Que le premier restaurateur soit Boulanger ou Mathurin Rose de Chantoiseau, ou que l'un et l'autre fussent la même personne. Il faisait partie de ces visionnaires qui eurent l'idée de proposer ces bouillons de santé dans le premier établissement connu sous le nom de Maison de Santé. Boulanger servait du bouillon à la portion, de la poule bouillie au gros sel et des œufs. Il eut l'outrecuidance de proposer à ses clients des pieds de mouton à la poulette, qui relevaient jusque-là des prérogatives des traiteurs, seuls officiellement habilités à cuisiner les ragoûts. Les traiteurs intentèrent un procès à Boulanger. Le Parlement de Paris délibéra plusieurs mois afin de statuer si ces pieds de mouton nappés d'une sauce poulette relevaient du ragoût ou non. Finalement, les traiteurs furent déboutés et Boulanger put poursuivre son commerce. Cette légende, colportée ci et là, ne fut aucunement confirmée par les historiens pour la simple raison qu'il ne subsiste aucune trace de ce supposé procès. La maison de santé de Mathurin Rose de Chantoiseau eut l'intérêt d'être le premier établissement du genre et de faire date dans l'histoire. Cependant, il fallut attendre l'abolition des corporations des métiers de bouche en 1776 pour que le restaurant que nous connaissons aujourd'hui apparaisse avec l'ouverture par Antoine de Beauvillier du premier établissement digne de ce nom, le Beauvillier. Antoine Beauvillier, ancien cuisinier du Grand Condé, puis officier de bouche du comte de Provence, futur roi Louis XVIII, ouvrit à la veille de la Révolution française en 1782 un premier restaurant à la Taverne de Londres rue de Richelieu, puis un second en 1788 chez Beauvilliers au Palais Royal, l'un des plus beaux restaurants de la capitale. Habitué aux repas de gala de l'aristocratie, il choisit de faire descendre dans la rue la grande cuisine française. Dans son établissement, le luxe était partout, afin de donner aux clients l'impression qu'ils se trouvaient bien dans une demeure aristocratique. Décors, miroirs, luces de cristal, tables en bois d'acajou recouvertes de nappes blanches, plats et couverts en argent, assiettes en porcelaine ou faïence, etc. Un voyageur anglais de passage reproduit dans Paris, As It Was, and As It Is, en 1803, les plats de la carte qui se permettaient d'afficher plus de 200 items classés selon l'usage en potage, hors d'œuvre, entrée, rôt, entremets et dessert, ainsi qu'une carte des vins, vins de liqueur et liqueurs. Parmi ces plats figuraient du potage au vermicelle, des tranches de melon, des pieds de cochon, des saucisses et perdrix au chou, des pâtés chauds, tourtes, vol au vent, langues de bœuf fourrées, des filets de bœuf sautés dans leur glace, des canards au navet, du hachis de bécasse en croustade, des faisans à la broche, des concombres à la béchamel, des beignets aux pommes, des macaronis au parmesan d'Italie, des soufflés aux pommes de terre, des truffes au chambertin, etc. Tous ces plats, au lieu d'être présentés sur la table au moment de l'arrivée des convives, étaient apportés de la cuisine au fur et à mesure du déroulement du repas, puis présentés individuellement à chacun. Le service était assuré par du personnel formé et bien habillé. Lui-même, Beauvilliers, se présentait impeccablement vêtu d'un habit à la française, portant le jabot et l'épée au côté. Il s'assurait que tout soit préparé ou présenté selon les règles établies à la cour. D'ailleurs, avant la Révolution, ses clients étaient encore les grands seigneurs, officiers du roi et courtisans accoutumés aux phases de Versailles. Après la Révolution, ce furent des députés venus des provinces françaises, de riches militaires et marchands, des banquiers et autres bourgeois fortunés, car chez Beauvilliers, tout était plus cher que dans n'importe quel autre restaurant de la capitale. Cette clientèle aristocratique fut même à l'origine de son arrestation et de son emprisonnement en 1793. L'ensemble des plats qu'il servait à sa table se retrouvèrent dans le livre qu'il laissa à la postérité, intitulé « L'art du cuisinier », publié entre 1814 et 1816 et qui devint un ouvrage de référence pour nombre de restaurateurs. Considéré comme le créateur du premier vrai restaurant, Beauvilliers ne tarda pas à être imité par d'autres comme le Café de Chartres en 1784, ancêtre du Grand Véfour, les Frères Provençaux en 1786, Véry en 1787 ou Méo en 1791, qui tous s'installèrent au Palais Royal, devenu un haut lieu du divertissement et de la restauration. C'était une véritable révolution qui s'opérait dans la capitale où les restaurateurs devinrent indispensables à ses habitants. Paris était devenu la ville des restaurants qui incarnait la gastronomie et la modernité parisienne. On peut souvent lire que les restaurants sont nés après la Révolution, quand celle-ci contraignit l'aristocratie et la noblesse à s'exiler, laissant sur le carreau moult cuisiniers et maîtres d'hôtel qui s'installèrent à leur compte en créant des restaurants. Nous avons vu qu'il n'en était rien, puisque les restaurants sont nés de l'abolition des corporations bien avant la Révolution. Toutefois, le rôle joué par la Révolution comme accélérateur du développement des restaurants n'est pas négligeable. Louis XVI dirigeait la France depuis 1774 à travers une monarchie absolue de droit divin. La société était alors divisée en trois groupes inégalitaires, la noblesse, le clergé et le tiers-état, représentés principalement par la bourgeoisie. Majoritaire dans le pays, le tiers-état, souvent maltraité, devait payer toujours plus d'impôts. De multiples crises économiques, sociales, financières et politiques touchaient le pays. Les prix augmentaient considérablement et les plus pauvres avaient beaucoup de mal à se nourrir. Face à toutes ces injustices, des manifestations et des émeutes se multiplièrent dans tout le royaume. Dans les rues de Paris, l'agitation était à son comble. Le 14 juillet 1789, la foule en colère attaqua la prison de la Bastille, symbole du pouvoir. C'est la Révolution où elle dura 10 ans. Après ces événements, la monarchie absolue disparut au profit d'une assemblée constituante qui vota la fin des privilèges seigneuriaux, mettant fin au système féodal hérité du Moyen-Âge. Les députés votèrent la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte qui déclarait que tous les citoyens étaient désormais égaux, à l'exclusion des femmes, des pauvres et des étrangers. La liberté d'expression, la liberté religieuse et la liberté de la presse furent également proclamées. En 1792, la monarchie était abolie et remplacée par la République. Le roi fut emprisonné, puis guillotiné. Cette abolition des privilèges de la noblesse et du clergé exerça une influence considérable sur la gastronomie française. Les maîtres-queues et maîtres d'hôtel, jadis au service de la noblesse, durent s'exiler avec leurs maîtres ou se reconvertir comme traiteurs, cuisiniers de maisons bourgeoises ou restaurateurs. Il en fut ainsi de Méo, ancien cuisinier de la famille des Condé, qui s'installa en 1791 rue de Valois. Si la Révolution française n'était pas à l'origine de la naissance des restaurants, elle joua un rôle de catalyseur et contribua largement à leur développement. Sous l'effet de la Révolution française et de l'exil d'une partie de la noblesse, les cuisiniers talentueux exercèrent de moins en moins dans les grandes maisons et investirent des restaurants aussi luxueux que renommés, un mouvement déjà amorcé à la fin du XVIIIe siècle. La mode était lancée et n'échappait pas à la hiérarchisation sociale. De 100 restaurants à la Révolution, ils passèrent à 600 sous l'Empire, c'est-à-dire entre 1804 et 1815, et à 3000 sous la Restauration, c'est-à-dire entre 1815 et 1830. Chacun prenait plaisir à les fréquenter en fonction de ses moyens. En 1846, Eugène Brifaut, dans Paris à table, évoquait la renommée des restaurants parisiens en ces mots. « Sous l'Empire, la réputation des restaurants de Paris est si grande qu'ils firent en Europe, pour notre cuisine, ce que les XVIIe et XVIIIe siècles avaient fait pour notre littérature. Ils la rendirent universelle. » Les restaurants réputés de Paris, ceux où l'on dîne, se situaient autour du Palais Royal, comme le Café de Chartres, actuel Grand Véfour, proposant une carte aux 500 propositions, les 1000 colonnes, la Maison Chevet, la Maison Marion Carême et le Café de la Paix, fondé en 1822. Les restaurants où l'on mange, bien plus nombreux, se proposaient aux appétits d'une population modeste préférant l'enseigne cuisine bourgeoise pour se régaler de bons plats traditionnels et économiques, à l'image de l'escargot de Montorgueil, fondé en 1832. Encore meilleur marché, simple et bon, il existait une quinzaine de bouillons, dont le premier fut créé en 1867 par le boucher Duval, qui servait du bœuf bouilli ou sa tête de veau vinaigrette. Le bouillon était le restaurant destiné aux Parisiens les moins fortunés. Baptiste Adolphe Duval, un ancien boucher, tenait Place Coquillère, l'une des boucheries les plus réputées de la capitale. Il eut l'idée de passer ses invendus dans un nouveau concept de restaurant, au rapport qualité imbattable, un bouillon. Sa clientèle n'appréciant généralement que les beaux morceaux, il ouvrit un établissement rue de la Monnaie pour y servir du bouillon et la basse viande qu'il ne vendait pas dans sa boutique. Au sujet du bouillon Duval, l'auteur Julien Turgan écrivit dans un ouvrage sur les grandes industries en France et à l'étranger en 1882 « Le mode de portionnement, le bon marché, la propreté exquise et la qualité tout à fait exceptionnelle des viandes mises en consommation assurèrent le succès de cette maison. » Une clientèle nombreuse s'y porta, on fit queue à la porte, à la grande stupéfaction des traiteurs des environs. Duval venait de créer, sans le savoir, une nouvelle catégorie de restaurants que l'on nomma bouillon et qui allait rencontrer un succès durable et faire la richesse du boucher. Les restaurants parisiens étaient reconnus dans le monde entier. Dès 1813, Étienne de Jouy écrivait « Les touristes du monde entier viennent à Paris apprécier la qualité de la cuisine, l'élégance du service de la table et le décorum du lieu ». Le nom de restaurant donné à ces établissements de luxe se diffusa dans le monde entier en exportant le savoir-faire et l'art de la table à la française, le dressage, le service, etc. En 1820, le Baedeker, un guide papier publié en trois langues qui listait les lieux de restauration, précisait « Les restaurants de Bruxelles sont élégants dans le genre des restaurants de Paris ». Ainsi, des restaurateurs belges s'installèrent à Bruxelles et ouvrirent des restaurants identiques aux restaurants parisiens. Ils copièrent même le nom des enseignes parisiennes. Encore aujourd'hui, le Plaza Athénée, le Grand Véfour ou la Tour d'Argent sont réputés dans le monde entier. Pour conclure, nous citerons l'historien Patrick Rambourg qui, dans l'histoire du Paris gastronomique, résume la renommée de la restauration ainsi. Depuis son invention par Mathurin Rose de Chantoiseau en 1765, le restaurant est devenu l'un des emblèmes de la modernité parisienne, un symbole des plaisirs de la table et de l'épicurisme. Tout visiteur qui se respecte se doit d'aller au moins une fois à une adresse réputée. Le restaurant est perçu comme une spécificité de la capitale française et restera presque exclusivement parisien durant les premières décennies du XIXe siècle. Aucune des grandes capitales de l'Europe n'est décorée de ces somptueux établissements aux services luxueux, ouverts le jour et la nuit, où à toute heure un repas vous attend, affirme dans ses mémoires le docteur Véron. Paris est alors la capitale des restaurateurs et leur établissement fut longtemps particulier à Paris. Certains d'entre eux acquièrent une telle notoriété nationale et internationale qu'ils contribuèrent au rayonnement de la ville à travers le monde. Ces restaurateurs célèbres sont loués par Antoine Caillot pour lequel nommer les noms de ces restaurateurs, c'est nommer presque tous les chefs de la cuisine et restaurants de la capitale, morts ou vivants. C'est nommer les cordons bleus de toutes les cuisines de l'Europe, par conséquent de l'univers. En ces premières décennies du XIXe siècle, Paris était bien la capitale universelle du restaurant où l'on accourait en foule. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et Avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.